Game Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Game Radio pour une émission spéciale consacrée au Paris Games Week. Et oui, ça a commencé aujourd'hui, hier soir on va dire, pour la presse en tout cas, c'était hier soir avec une soirée de lancement spéciale. Et puis aujourd'hui, les portes de Versailles, c'est le cas de le dire, se sont ouvertes pour accueillir les visiteurs. Et ça jusqu'au 31 octobre prochain, ça commence donc aujourd'hui, mercredi 27 octobre, ça se termine samedi ou dimanche, je crois que c'est dimanche. 31 octobre, tout à fait. Avec moi, il y a Calam.
Salut à tous.
Et puis, il y a surtout... Excuse-moi, Calam. Il y a surtout Shoham, qui est sur place au Paris Games Week en direct depuis là-bas. On enregistre cette émission via Skype, et tu es sur place.
Ah oui, je suis sur place dans une petite salle où j'ai avec moi quelques invités. On va faire un petit peu le point, le tour de ce qu'il y a, des stands qu'il peut y avoir. Et puis particulièrement sur un dont, pour l'instant, je ne dis rien.
Voilà, ne dis rien. Alors, on va faire, oui, comme tu le disais, effectivement, ça va permettre aux gens qui, comme moi, sont soit en province, soit n'ont pas pu se déplacer jusqu'à Paris, de vivre à travers cette émission un petit peu l'ambiance de ce salon, voir un petit peu ce que ça donne. On en avait parlé déjà dans le Game Radio & Co épisode 3, dans lequel nous recevions Jean-Claude Larue du CEL. On rappelle que cet événement est organisé par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels, et je ne sais plus s'il n'y a pas un deuxième L.
Logiciels de loisirs.
De loisirs, merci. De logiciels de loisirs qu'on avait reçu, qui nous avait parlé du salon. Alors, on va faire le point sur cet événement. J'ai essayé de préparer l'émission. J'avoue que ça m'a semblé impossible. Décrypter le programme, c'est impossible. Il y a trop de choses.
J'aimerais qu'on en parle un peu après, parce que j'aimerais après libérer mon invité. Si ça t'embête pas.
D'accord. Donc, tu veux qu'on commence par l'invité, on revient sur le salon plus tard.
Oui, voilà, si ça te dérange
pas. Ok, écoute, très bien, présente-nous ton invité mystérieux. On ne sait pas de qui il s'agit, tu n'as pas voulu me le dire.
Je vous laisse poser des questions. Il va répondre. Je vais lui poser des questions rapidement pour savoir qui c'est.
Oui, alors comment est-ce qu'on s'organise? On est en direct total, on est dans les conditions du direct. Comment s'organise? On leur explique qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde au Paris Games Week, donc tu es obligé de mettre un casque.
Il y a beaucoup de monde là, ça commence là. Les portes viennent juste d'ouvrir en fait à l'instant.
Donc tu as un casque sur les oreilles, ce qui fait que notre invité
n'entend pas en fait ce que vous dites. Donc pour ça, je vais retranscrire les questions.
Alors voilà, on explique aux auditeurs les questions qu'on va lui poser sont retranscrites. Alors je ne sais pas, je sais juste que c'est une personnalité. Tu m'as dit importante, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est Jean-Claude Larue?
Oui. Non.
C'est jamais.
C'est Jean-Claude Larue, non.
Ah, dommage.
J'ai croisé Jean-Claude Larue.
Tu lui as salué de la part de Game Radio?
Non, je l'ai pas salué de la part de Game Radio pour l'instant.
Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir.
Je lui laisse un peu digérer l'événement, donc.
D'accord. Alors attends, voilà. Question suivante. Est-ce que c'est quelqu'un?
Non, c'est pas Jean-Claude Larue.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille plutôt du côté média presse?
Est-ce que c'est quelqu'un qui
travaille? Est-ce que tu travailles dans les médias et la presse jeux vidéo?
Alors, est-ce que tu travailles dans les médias et la presse jeux vidéo?
Je travaille dans le jeu vidéo.
Voilà. Dans le jeu vidéo.
Travaille dans le jeu vidéo, oui.
Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un studio de développement?
Est-ce que c'est dans un studio de développement?
Il y a plusieurs studios de développement qui gravitent autour de moi.
Autour de lui? Oh la vache. C'est quelqu'un qui travaille chez Ubisoft?
Eh ben écoute, oui, exactement.
oui, forcément.
Ça a été très bon. C'était quelqu'un qui travaille chez Ubisoft. Alors, c'est tout simplement Pascal Lecointe, qui est responsable de presse de chez Ubisoft, qui est avec moi aujourd'hui en tant qu'invité, et invité mystère, invité de marque.
Alors moi j'ai une question tout de suite à lui poser. Est-ce qu'à l'avenir...
Une question directe à lui poser.
Ah ouais, bon. Direct, parce que j'ai déjà eu au téléphone. Est-ce qu'à l'avenir nous allons recevoir des jeux Ubisoft pour pouvoir les tester sur Game Radio?
Est-ce tu la gardes pour la fin? Des jeux Ubisoft qu'on pourra tester sur Game Radio?
Bah oui, pourquoi pas, il suffit de me les demander. Est-ce qu'on me les a demandé?
Je crois qu'on a commencé à vous demander là, il y a très peu de temps en fait.
Bah ce sera oui, je vais dire oui.
D'accord, très bien, merci.
Le regard là qui me fusille. Donc oui, c'est oui, vous aurez des jeux.
Très bien, on l'a pris en otage.
Game Radio, c'est formidable.
On l'a pris en otage, tu m'excuseras auprès de lui après l'interview. Écoute, je te laisse lui poser quelques questions. On te laisse lui poser quelques questions pour nous. Shoham,
très bien.
On te laisse supposer.
Pascal, En fait, le Paris Games Week a commencé plus ou moins hier soir. Là, il a vraiment ouvert ses portes maintenant à l'instant. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter déjà ce que vous avez préparé sur le stand, sur le Paris Games Week, suite effectivement à la demande du CEL pour venir sur ce salon?
Bien sûr. Alors en fait, pour nous, ce salon est important parce qu'il a vocation aujourd'hui à être le plus gros salon, en tout cas consumer, pour le jeu vidéo, pour l'industrie du jeu vidéo. Donc effectivement, nous, on va présenter sur le stand des jeux qui vont sortir courant novembre ou qui sont déjà sortis. Et donc effectivement, le salon a de l'importance pour nous, puisqu'il y a aussi à terme, c'est d'en faire un des plus grands salons d'Europe dans l'industrie du jeu vidéo. Donc après, quelques petites infos, je sais pas, sur nos titres en particulier.
Oui, bien oui, exactement. Bah c'est ça. C'est que j'allais revenir sur les jeux. Justement, quels sont les jeux que vous allez présenter? On sait déjà plus ou moins, ça a été déjà finalement annoncé. Mais quels sont les jeux là en fin d'année que les joueurs vont pouvoir commencer à acheter à dès Noël?
Bah, en fait, pour nous, une thématique très importante cette année, ça, c'est la thématique de la danse. Le phénomène avait commencé l'année dernière avec le premier Just Dance, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Et nous, on a senti effectivement que ça allait devenir le phénomène des années à venir. Donc, cette année, on est en plein dedans. Donc nous, là, sur le stand, tu as pu le voir d'ailleurs, on a une belle mise en avant de Michael Jackson, qui sort fin novembre, et de Just Dance 2, qui est disponible depuis 2 semaines.
Oui, il y a
donc,
3 jeux.
C'est vraiment cette thématique qui, pour nous, va être la thématique de Noël, qui va faire danser un petit peu dans toutes les chaumières. Ensuite, effectivement, on en profite aussi pour montrer le nouveau Lapin Crétin, qui est prévu sur Wii pour fin novembre. Cette fois, les lapins qui vont... on revient sur un party game, et les lapins qui vont un petit peu se balader dans notre histoire. Donc, j'ai assez la surprise, hein, évidemment, des petites anecdotes qui vont se passer dans le jeu. Mais on peut s'imaginer que des lapins crétins qui ont une machine à remonter le temps et qui vont croiser les faits les plus importants de l'histoire du monde, on imagine ce que ça peut donner comme catastrophe. Sinon, on a évidemment le...
Choam, j'aurais une petite question, si c'est possible.
Brotherhood, qui est prévu le 18 novembre.
Bon,
et là, qu'on montre, on fait jouer les gens sur le mode multijoueur et on fait une présentation du mode solo que les gens n'ont pas encore eu l'occasion de voir jusqu'à présent.
Une petite question de Gus.
Oui, concernant les lapins crétins. Concernant les lapins crétins, quand est-ce qu'on aura des lapins crétins à nouveau, parce que je crois qu'il y a eu un épisode sur Xbox, à nouveau sur Xbox 360 ou sur PS3.
D'accord. La question est de savoir, est-ce qu'on va retrouver les lapins crétins sur Xbox ou sur PS3 comme il y a eu auparavant?
Alors c'est vrai qu'on pouvait l'imaginer parce que on sait qu'il y a eu la sortie du Move, que Kinect va arriver sur Xbox début novembre. Pour l'instant c'est quelque chose en fait qui comment dirais-je, on y a pensé, on y pense encore, mais il y a rien de vraiment défini par rapport à ça. Pour l'instant les lapins crétins sont devenus une mascotte oui et vont rester une mascotte oui. Après voilà c'est
trouver une autre mascotte alors.
Et on pourrait, non mais donc effectivement aujourd'hui on serait plus à dire que les lapins crétins sont des personnages oui et vont pour le moment le rester. Ouais.
Deux belles exclusivités Xbox 360 avec Your Shape et Motion Sports qui sont des jeux Kinect. Est-ce que tu peux lui demander un petit peu sur les jeux Kinect justement d'Ubisoft?
Il y a deux questions sur deux jeux Kinect qui sont Your Shape et Motion Sport. Je sais pas si j'ai pas vu sur le stand. Peut-être qu'ils y sont, j'en sais rien, je vais pas les voir. Est-ce que tu peux nous en parler justement?
Ouais, bien sûr. Alors en fait, Ubisoft va être un éditeur très présent au moment de la sortie de Kinect. Parce qu'en fait, c'est une technologie qu'on maîtrise très bien puisqu'on travaille dessus depuis quelques années déjà. C'est-à-dire qu'avant que Microsoft fasse l'acquisition en fait de cette techno, nous on fait beaucoup de R&D en fait chez nous, et cette technologie là il se trouve que on travaillait déjà dessus, donc on est notamment le seul éditeur à savoir faire une reconnaissance du corps. C'est-à-dire que souvent quand on joue quand on a des démos de jeux Kinect, on voit un avatar. Chez nous notamment, tu me citais Your Shape qu'on présente ici, c'est vraiment un scan de son corps, et en temps réel dès qu'on fait un mouvement c'est nous qu'on voit à l'écran, c'est notre corps qui bouge. Et donc c'est Your Shape, le jeu de sport également, et puis on présente Fighters Uncaged qui va être le premier jeu gamer sur Kinect, et ces jeux-là sont prévus pour la sortie de Kinect, donc de début novembre.
Ok, est-ce que ça te convient les réponses?
Oui, 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 très bien. Autre petite question aussi, pour eux, un salon comme celui-là, comment ils l'ont travaillé? Est-ce que ça a été un peu à la dernière minute ou c'est un travail qu'ils mènent depuis plusieurs mois de préparation pour proposer un stand de qualité? Comment est-ce que ça se met en place techniquement?
D'accord. Alors concernant le salon, sur votre stand directement, comment vous avez pu travailler le stand? Est-ce que ça a été assez complexe pour pouvoir mettre tous les jeux que vous voulez mettre en avant, ou vous êtes privé à la dernière minute et vous avez mis ce que vous avez pu aux endroits que vous avez pu?
Bah, en fait, alors, question qui me concerne pas directement, parce que moi je m'occupe des relations presse, donc on a chez nous des experts en tout ce qui est événementiel, donc après l'organisation d'un salon c'est une question d'habitude, une question de savoir-faire, et là pour ce salon effectivement, en tout cas les gens chez nous ont fait un stand très fonctionnel et on a pu mettre en avant les jeux comme on voulait les mettre en avant. Donc après c'est vrai que c'est pas trop moi mon job direct, mais ce qu'on a voulu faire on l'a fait, et je pense que le résultat se voit bien, hein, sur place.
C'est quand même l'un des stands, je trouve, les plus beaux et les plus disparates, parce que vous avez quand même plusieurs univers dans un seul stand. Vous avez l'univers des lapins crétins avec un gros lapin, un peu l'univers un peu en plus marron cuir qui représente effectivement le voyage dans le temps. D'un autre côté, vous avez un énorme stand de Michael Jackson avec une scène qui permet de voir des danseurs qui fait du Michael Jackson. À côté, vous avez Just Dance 2. Et après, vous avez des bornes un peu partout. Et aussi un grand stand, j'ai vu apparemment, de multi d'Assassin's Creed. Dont on va revenir d'ailleurs. C'était ma question justement, par rapport au multi et à l'histoire d'Assassin's Creed. Je crois qu'ils sont... Ils sont pas développés, le multi et le solo, par le même studio de développement, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a une manière de faire dans le développement des jeux. C'est la next-gen, hein, qui demande ça, hein. Beaucoup d'équipes, beaucoup de savoir-faire. Et nous, en fait, on mobilise souvent presque tous nos studios sur le développement d'un jeu. Donc là, par exemple, le mode solo, donc, est fait à Montréal. Le mode multi est fait à Annecy. Donc, comme tu précisais bien. Et c'est vrai que nos studios, sur différents types points particuliers du jeu, vont être réquisitionnés parce que on a les savoir-faire qui sont un peu partout, et ensuite on regroupe tout ce qui a été fait, et puis ça donne le jeu comme on l'aura complètement à sa sortie.
On aura l'occasion certainement de questionner un développeur que je diffuserai un talk show AM un peu plus tard. Est-ce que Galam avait une question concernant Ubisoft?
Oui, moi c'était plus une question par rapport au la vision d'Ubisoft sur le marché 2011 en France. Bon, parce que là, on a parlé des jeux qui ont un gros succès commercial comme Just Dance. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est de par exemple Assassin's Creed Brotherhood et peut-être ses suites et D'accord. Et aussi et une deuxième question. Oui. Je suis désolé, j'enchaîne là.
Y a pas de problème. Vas-y.
Peut-être comment ça se passe avec les studios Ubisoft Montréal notamment et les autres studios Ubisoft dans le monde. Est-ce que il y a une proximité quand même, ou est-ce que vraiment c'est des entreprises bien séparées, bien différentes?
D'accord. Ok. Alors d'abord première question, quelle est la vision d'Ubisoft concernant le marché 2011? Donc pas cette fin d'année, mais 2011, et notamment sur éventuellement les suites. Je pense qu'il va y en avoir des suites d'Assassin's Creed, peut-être certainement Assassin's Creed 3, et donc gamer et casual.
Alors ça, c'est la vision. Tu me la demandes par rapport à quelque chose de général ou
du... Oui, général. Oui, bien sûr.
En fait, je vais la distinguer en deux points. Par rapport à Ubi, effectivement, on a des licences très fortes. Donc, on peut effectivement envisager qu'il y ait une continuité sur les années à venir. Après, je peux pas non plus donner les noms des jeux. Vous êtes des malins.
C'est normal. Non, mais... Tu vois, Calam, t'es grillé. Hein.
vous réussirez pas à me faire parler plus que ça. Sinon, on est toujours, en fait, sur Ubi, on a vraiment des visions à moyen et long terme. Donc effectivement, là, on doit déjà être, je pense à la 3DS, effectivement, sur laquelle on développe déjà des titres, on a déjà des machines nous en interne, et les développements ont très bien commencé dessus. Après, sur 2011, je dirais qu'on a une vision tellement sur le futur au-delà de 2011 qu'à mon avis, on est déjà sur de la R&D ou autre. Voilà, tout à fait. Et on a plus ce genre de vision, et sachant que on a pour politique, de toute façon, de toujours être présent sur les nouveaux supports qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que n'importe quel constructeur peut venir en nous disant, voilà, on a quelque chose de nouveau à vous proposer. C'est sûr que nous, notre objectif, ce sera d'être présent partout et dès le début.
Et aussi de garder donc le public gamer et casual. vous mettez pas plus d'efforts sur l'un ou sur l'autre.
Non, effectivement, c'est de gagner les deux, sachant que cette polémique n'existe plus en fait pour nous, parce que quand on regarde aujourd'hui un Just Dance qui pouvait être l'année dernière considéré comme un jeu vraiment grand public, aujourd'hui on voit que les gamers quand ils sont en famille, entre amis, etc. le week-end, qui ont essayé le jeu, comprennent qu'effectivement qu'à partir du moment un jeu s'est fait pour avant tout amuser les gens, du fun, etc. À partir du moment où les jeux sont bien faits et apportent en fait ce plaisir aux joueurs, on fait plus nécessairement la distinction entre du gamer et du grand public. Nous, c'est une question effectivement que on se pose de moins en moins. L'objectif, c'est effectivement de faire des jeux qui plaisent à un maximum de gens et qui sur lesquels les gens s'amusent.
Alors, j'ai une question.
Vas-y, dis-moi, Guillaume.
Il parlait de nouveautés. Il y a un jeu qui s'appelle Fighters Uncaged, qui est un jeu de baston, si j'ai bien compris. C'est venu de nulle part. C'est une nouvelle licence, ça, Ubisoft. Fighters Uncaged.
Alors là, en fait, c'est une nouvelle licence, Fighter Uncaged, qu'effectivement j'ai vu sur le stand, sur la Kinect. C'est une nouvelle licence, ça sort de nulle part. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ça sort. Je dirais que ça sort pas de nulle part, parce que, alors comme tu dis, déjà on le présente sur le salon, il est jouable. Mais en fait, on est sur un créneau. On n'avait pas trouvé de jeu. On réutilise ce genre de terme, mais c'est vrai que les jeux pour l'instant sur Kinect sont beaucoup de jeux pour la famille, et il n'y a pas de jeu gamer à proprement parler. Là, pour le coup, on était déjà à travailler sur un jeu de combat, pour le coup, puisqu'il s'agit d'un jeu de combat. Et on s'est dit, pourquoi pas vraiment avancer sérieusement le développement, puisque pour être présent au moment de la sortie de Kinect et être sur ce seul créneau de jeu particulier et pour les gamers, en fait. Donc après, de là à dire que c'est une licence, je dirais que c'est déjà un premier jet, donc un nouveau jeu, effectivement. Une nouvelle licence, c'est autre chose.
C'est plus une démonstration, une démo,
une
démo
technique.
C'est
plus une démo, quoi.
En fait, moi, je fais la distinction entre licence et jeu. Là, ce que je voulais dire, c'est oui, c'est un nouveau jeu. Quand tu me parles de licence, ça voudrait dire qu'il y a des suites, etc. Ça, je ne sais pas.
Ah, d'accord.
Voilà, tu vois, c'est okay. Pas une démo, c'est un vrai jeu. Mais si ça marche, il y aura des suites. Si ça marche pas, ils feront autre chose.
Très bien.
Si tu l'as compris.
Moi, si je peux me permettre, j'ai une dernière question.
Il y avait une question de Calam tout à l'heure concernant Ubisoft Montréal, c'est ça?
Oui, c'est vrai, vas-y.
Juste, concernant donc le studio qui est à Montréal, Ubisoft Montréal, comment ça se passe au niveau de votre organisation? Est-ce que Ubisoft Montréal est quand même assez indépendant par rapport au QG qu'il y a en France à Montreuil? Ou vraiment vous avez des points, des cahiers de charges que vous donnez à Ubisoft Montréal qui doivent se tenir?
En fait, ça c'est une méthode de travail pareil. Hein, je peux pas tout révéler notre fonctionnement, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de liens en fait entre tous les studios et effectivement le siège. Il faut que tout le monde travaille. C'est on sait que il y a des gens de qualité. Du savoir-faire qui se trouve dans tous ces studios, donc c'est plus, je dirais, des échanges qui se font avec une certaine indépendance aussi, parce qu'il s'agit d'artistes, donc il faut qu'ils aient accès libre à ce que eux souhaitent faire. Mais en fait, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire à la fois de choses. Quand on voit des premiers résultats sur des jeux à venir, etc., il faut effectivement avoir une certaine direction pour arriver au final à quelque chose de cohérent. Mais on reste quand même dans un milieu de création, d'imagination, etc. Donc c'est à la fois cadré pour avoir un produit final qui le soit, mais c'est aussi très très libre et avec beaucoup d'échanges entre tous les studios du monde entier.
Est-ce que tu peux simplement le rappeler, Calam, oui?
Oui, du coup, s'ils ont beaucoup de relations, tu peux lui demander s'il a encore le numéro de Jade Raymond, là, qui était lead producer sur Assassin's Creed 1.
Est-ce que t'as encore le numéro de Jade Raymond, qui était executive producer sur Assassin's Creed le premier?
Qu'est-ce que c'est que cette question?
Jade Raymond, qui a fait un super taf, sur le premier Assassin, je rappelle effectivement qu'elle était productrice. Aujourd'hui, elle est directrice des studios de Toronto. Voilà.
Donc, t'as son numéro?
J'ai son numéro, bien sûr que j'ai son numéro.
Est-ce que...
Bon, allez. Moi j'avais une question.
Je rappelle les studios en fait Ubisoft qui existent partout dans le monde, parce que on connaît celui de Montréal, Il y a maintenant celui d'Annecy, effectivement, qui est pas forcément connu, celui de Montpellier. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, bien sûr, il y en a partout. Tiens, d'ailleurs, je suis content que tu embrayes sur une autre question, parce que je pensais que t'allais, en fait, appuyer la question sur Jade et je vous aurais donné le numéro. Bon, comme tu me demandes autre chose.
Super voir!
Alors, sur les studios, bah, évidemment, alors, on a des studios, de Shanghai, qui sont connus pour avoir fait le N-Noir, qui sont connus pour avoir fait le Splinter Cell double agent. Donc pareil, qui sont sur des projets et qui sont de gros studios. On a les studios, là je vais vous citer les plus gros, hein, parce qu'effectivement on en a partout. On en a au Maroc, à Casablanca, reconnus pour leurs jeux sur portable. On en a à Bucarest, donc en Roumanie, qui ont été en fait nos premiers studios hors de France, la Roumanie. Donc là qui a fait des jeux type Hawks, très fort sur la simulation. Par exemple, les Silent Hunter, etc. C'est à ces studios de Roumanie qu'on les doit. En Europe de l'Est, vraiment partout.
Ok. Moi, merci. En tout cas, j'avais une dernière question, si c'est possible.
Oui, vas-y.
Voilà, il nous a déjà parlé lui du salon et de ce serait peut-être un salon qui allait être le premier salon européen, si j'ai bien compris. Oui. Lui, en quelques mots là, est-ce qu'il en est pour le moment, enfin, est-ce qu'il en est pas, enfin, pas est-ce qu'il en est content, mais est-ce qu'il est content de ce qu'il découvre aujourd'hui et qu'est-ce qu'il pourrait dire aux gamers pour que les gamers aient envie de venir à ce salon?
Dernière question concernant le salon, en fait. Est-ce que, pour l'instant, hein, de ce que tu en as vu et de ce que tu vois au niveau de l'organisation, est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que ça a dépassé tes espérances ou c'est comme tu le pensais? Et surtout, est-ce que tu as un mot aux gamers pour qu'ils leur donnent envie de venir sur le salon? Bah, bien sûr, sur le stand Ubisoft.
Nous, évidemment, on est content d'être là parce que là, on se rend compte, il y a eu la soirée d'avant-première hein, hier, à laquelle il y avait beaucoup de presse, les gens ont répondu vraiment présents. Et on voit, de toute façon, sur la globalité du salon, quand on voit la qualité des stands, quand on voit ce qui est montré, nous, par exemple, on a révélé notamment, là, je reviens sur Ubi, mais on a révélé quand même en avant-première mondiale le Michael Jackson sur Kinect. Donc, effectivement, on est content d'y être, il fallait y être. Et là, ça commence à ouvrir les portes au public là aujourd'hui, et on voit que les allées se remplissent de plus en plus. Donc j'imagine à peine ce que ça va être vendredi et ce week-end, mais à mon avis, ça va être un succès de fou. Et de toute façon, il faut qu'il y ait ce genre de d'événement pour les joueurs, évidemment. Et ensuite, pour les inciter à venir, bah, je dirais simplement que de toute façon, quand on aime le jeu vidéo et qu'on est plongé dans cette ambiance, moi, qui me fait un petit peu penser à l'E3 à Los Angeles. Alors effectivement, ça reste un rêve d'aller à l'E3, mais justement d'avoir un type d'événement pareil sur Paris, accessible au public, si on aime le jeu de vidéo, on peut que avoir envie de venir et il faut venir, parce que c'est encore une fois cette ambiance et la possibilité de voir des jeux qui vont bientôt sortir, donc en avant-première de pouvoir y jouer, voilà, c'est, j'insiste sur le mot ambiance, mais c'est ça, c'est ce qui fait le jeu vidéo, le fun, etc. Et là on le ressent bien sur le salon.
Ok, donc c'est vraiment un vrai show, comme l'avait dit Jean-Claude Larue, un vrai show du jeu vidéo, où on a vraiment tout ce que l'on peut rêver de voir à l'E3, donc un petit E3 en France, à Paris, voilà.
Gus ? Très bien, oui, bah écoute, oui, pour moi c'est bon.
Attends, bah Pascal, je t'en remercie d'être venu et d'avoir participé à l'émission sur Game Radio. Si tu veux, si t'as besoin de partir, il y a pas de problème, sauf si tu veux rester. Mais en tout cas, t'es bienvenu. En tout cas, si tu veux rester. Ah bah il va rester.
Ah bah écoute, tant mieux, très bien.
Des questions.
Alors, voilà. Bah, si ça nous vient, on reviendra. Alors en plus, j'ai dit Patrice, c'est Pascal. Si on a d'autres questions, bien entendu, on les lui posera. Calam, je compte sur toi éventuellement pour en trouver d'autres.
Oui, est-ce que j'ai très pertinente.
Ouais, très oui. Pertinente comme tu as le secret. Est-ce que tu, Shwam, tu avais d'autres invités, je crois, si j'ai bien compris.
Oui, alors
attends, on va les garder pour plus tard.
Deux invités en fait avec moi, bon, qui sont un peu plus discrets parce que.
Est-ce qu'on peut
avec la petite caméra, avec une petite caméra qui est en train de filmer plus ou moins l'intervention. Il s'agit de deux personnes de jeuxonline.info.
D'accord.
Qui avaient déjà participé, qui étaient déjà avec moi à la Gamescom, donc hein, qui refont le tour du stand des stands avec moi. Bah, je vais plus ou moins les présenter ou ils vont se présenter eux-mêmes carrément.
D'accord. Ah, oui. Ah bon, non, alors non, ou alors est-ce qu'on peut Shwam peut-être faire le point? J'aimerais bien là maintenant qu'on fasse le point sur le Paris Games Week et on revient vers eux juste après.
Oui,
pendant 10 minutes, même pas. On rappelle qu'hier soir, il y avait donc une soirée de presse donc consacrée exclusivement à la présentation du salon aux médias. Tu y étais, est-ce que tu peux nous parler de cette première soirée?
Alors la première soirée presse en fait, elle était exclusivement effectivement comme tu le dis réservée à la presse. C'est-à-dire que là, on avait effectivement toutes les personnes qui travaillaient dans le monde du jeu vidéo, du business ou de la presse, qui étaient présents. Et comme l'a dit Pascal tout à l'heure, effectivement, il y avait énormément de monde. La presse a vraiment répondu présent. Elle n'a pas failli à cet événement. Elle n'a pas du tout boycotté l'événement. Quand on
y avait,
le pensait, mais pas du tout.
Il y avait tout le gratin parisien.
Il y a vraiment tout le gratin parisien. pour n'en citer que, moi j'ai vu No Life, j'ai vu Monsieur Poulpe, j'ai vu Game One, j'ai vu No Life, Game Blog, Game Cult, bah, ils étaient tous là, vraiment, ils ont été tous présents. Donc c'était une très bonne idée de la part du Paris Games Week de le faire, en dehors du fait que c'était que de 19h à 22h, ce qui a vraiment laissé vraiment un très court temps pour pouvoir jouer au jeu et sur les bornes. Et j'en ai fait part d'ailleurs à l'organisation pour que l'année prochaine ça se passe sur une journée et pas que sur une soirée.
Ouais, ce qui se fait généralement dans les autres salons. Il y a toujours une journée presse qui permet à la presse de profiter des jeux avant le public et d'être
et de
tranquille.
Faire des interviews au calme aussi.
Voilà, aussi. C'est vrai qu'une soirée de 3 heures, c'est un petit peu court. C'était histoire de marquer le coup. Alors, on va revenir.
Est-ce que tu sais s'il y avait la presse étrangère qui était présente aussi? Ou peut-être encore.
Alors, moi, j'ai pas vu de presse étrangère. Je sais pas si Pascal l'en a vu. Est-ce que tu as vu une presse étrangère venir te voir?
Non, en fait, j'en ai pas vu. Il devrait peut-être y en avoir quand même parce que des correspondants sur place, mais effectivement, j'en ai pas vu.
D'accord. Donc ça reste quand même un salon franco-français quand même.
Un petit salon national local. Un petit salon national. Je disais un petit salon national local. non, je plaisantais.
Avec des moyens.
Avec des moyens quand même. Alors, oui. on va parler peut-être du programme. Je le disais tout à l'heure, impossible de tout détailler dans cette émission. Il y a tous les jours, de 9h le matin à 8h le soir, énormément d'événements, de choses à voir. Je crois que l'accent a vraiment été mis sur, tu le disais tout à l'heure, le show. Donc il y a tout le temps des animations à différentes heures de la journée. Le seul conseil qu'on peut donner, je pense, là maintenant, c'est de tout simplement aller sur le site du Paris Games Week pour savoir quel est le jour le plus intéressant par rapport à ses goûts, pour se rendre là-bas et tout simplement pour peut-être s'imprimer un guide. Je sais pas comment faire. C'est assez impressionnant.
Il y a pratiquement tous les éditeurs. Hein, il faut croire. Hein, il faut voir. Hein, il y a pour à part Ubisoft, effectivement, il y a quand même THQ, Microsoft, Sony et Nintendo qui ont deux, trois grands stands chacun. Il y a aussi bien entendu NCSoft qui est venu. Je sais pas si j'en oublie. Oui, certainement j'en oublie.
Il y a Sega
qui a un grand stand. Electronic Arts qui est venu aussi en force.
On parlait récemment dans une émission des jeux indépendants. Est-ce qu'ils sont présents aussi? Est-ce qu'ils ont des emplacements qui leur sont réservés?
Alors concernant les jeux indépendants, c'est un peu plus compliqué. Parce que moi j'ai contacté quelques développeurs de jeux indépendants. Ils m'ont tout simplement dit qu'ils avaient pas leur place là-bas.
D'accord.
C'est-à-dire que
oui, bon, on arrête.
Ils n'ont pas été invités à venir.
On va pas partir dans la polémique. Alors on arrête tout de suite, sinon ça va recommencer.
Voilà, sans partir dans la polémique. Voilà. En tout cas, très très peu de jeux indépendants. Toutefois, si on tourne un petit peu, on peut rencontrer des personnes avec un petit attaché case, des cartes et des petits jeunes qui présentent leurs cartes en disant voilà, j'ai un petit jeu, si vous voulez le télécharger, il y a pas de problème, vous m'envoyez un email.
On compte sur toi. on compte sur toi pour les interviewer ces gens-là et leur donner la parole sur
Gamma. Bien sûr, oui, bien sûr.
Ok, Calam. Peut-être une petite question à poser à Shoham.
Oui, pour le moment, Shoham, sur le salon, de ce que tu en as vu là, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou le plus marqué, toi, en tant que joueur ou en tant que...
Alors moi, si j'avais disons l'œil d'un joueur, c'est tout simplement la taille des stands. Il y a quelques stands qui sont quand même assez impressionnants sur des gros jeux. Hein. Je parle notamment de Call of Duty Black Ops ou de Fable 3 et de Gears of War 3. Bien entendu, le stand aussi Ubisoft est quand même assez grand. Par contre, ce qui m'embête le plus en fait dans ces stands-là, c'est qu'on ne voit pas vraiment les jeux. Les jeux, il faut pouvoir faire la queue, énormément faire la queue, pour pouvoir les voir. En tout cas, les gros stands, hein, parce que Ubisoft, c'est un petit peu moins, je crois.
500 mètres carrés quand même. En fait, en termes de dimension, il faut se dire que le stand d'Ubi, ici, c'est la moitié du stand de l'E3, mais sachant que le stand de l'E3 est énorme. Donc voilà, c'est 50%, ça fait déjà un stand très très grand, quoi.
Ah, c'est immense. C'est immense.
Voilà, et c'est immense. En plus, ce qu'il y a en fait, c'est que là, je parle d'Ubi, c'est pas Ubisoft en fait, mais tout simplement des gros jeux en fait, on peut pas les voir. C'est-à-dire qu'ils sont cachés et il faut faire la queue pour les voir. Ubisoft, c'est autre chose. Apparemment, il y a des shows qui sont présentés mais qu'on peut voir à l'extérieur.
D'accord.
Donc c'est ça qui est assez intéressant.
justement, petite question au niveau merchandising, au niveau animation dans les allées, tout ça. Est-ce qu'il y a comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses babes? Est-ce qu'on peut acheter des jeux? Est-ce qu'il y a des goodies? Est-ce qu'on peut acheter des choses? Est-ce qu'il y a des magasins limite des magasins dans le Paris Games Week?
Non, pas de magasins. Il y a pas de magasins. Il y a pas de d'endroit où on peut acheter des goodies. Donc ça reste vraiment réservé aux éditeurs.
D'accord.
Éventuellement des éditeurs s'ils veulent donner des t-shirts ou s'ils veulent donner des petites figurines, ils le donnent à des gens qui le demandent ou même tout simplement des fans qui viennent jouer. Ça il y a pas de problème. Mais par contre pas de magasin, pas le petit magasin qui va se vendre ses jeux de cartes ou ses petits goodies. Il y a pas non plus de petits sites. Ah oui, la Fnac aussi est présent. La Fnac est présent et ils vendent des jeux, je crois, non? Ils vendent des jeux. Voilà, et donc il y a que la Fnac.
D'accord. Donc
il faut s'appeler la Fnac pour pouvoir vendre des jeux.
Une espèce de monopole. Et Micromania alors?
Non, Micromania en fait sera présent le lundi et ne sera invité, comme je te l'avais dit, les 10 000 meilleurs clients de Micromania.
D'accord. Alors là, voilà,
c'est un peu particulier.
Micromania. Ouais, c'est un peu particulier parce que normalement le 31 octobre, donc dimanche, le Paris Games Week est terminé. Donc en fait, le Micromania va récupérer les meubles. Comment ça va se passer? Tu as une idée de ça ou pas?
C'est-à-dire?
Tu me dis.
Ah oui, il va récupérer. Oui, effectivement. En fait, le Micromania Game Show va récupérer lundi tous les stands qu'il y a présents et les joueurs pourront jouer aux bornes, donc accessibles uniquement qu'à eux.
D'accord, donc voilà. En fait, ils prennent le relais à partir de lundi.
Le public à part.
Ils prennent le relais à partir de lundi pour une journée. Donc, le programme, je conseille aux gens d'aller sur le site du Paris Games Week pour y jeter un œil. C'est trop complet, trop complexe et trop grand pour pouvoir vous en parler là maintenant. On est en plus en tout début de salon. Donc, Shoham, tu viens presque d'arriver. Tu as participé à la soirée d'hier soir. Là, tu viens d'arriver pour qu'on puisse enregistrer cette émission dès le départ pour donner déjà nos premières impressions. On part là sur 4-5 jours, 5 jours de fête du jeu vidéo. On fera un point vendredi dans le prochain Game Radio & Co. Shoham, tu seras là, bien entendu. Donc, on pourra reparler de tout ce que tu as pu voir, notamment dans l'après-midi.
Surtout.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je ne sais pas, moi, dans cette émission par rapport au Paris Games Week. Bah, peut-être tout simplement donner la parole à tes deux autres invités.
Bah, bien sûr. De toute façon, je fais beaucoup d'interviews en ce moment pour le Talk Shoham, donc vous aurez, je pense, certainement énormément de gens de la profession, des professionnels, mais aussi je vais interviewer des gens qui se baladent, qui sont là, qui vont donner leurs impressions sur le salon et sur les jeux qu'il y a à présent, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que mes invités veulent dire 2-3 mots là en fin d'émission? Pascal, peut-être?
Là, les mots qui me viendraient, ce serait effectivement venez le plus nombreux possible sur le salon. Il y a vraiment des choses intéressantes à voir et l'ambiance est vraiment top.
Très bien.
Voilà. J'ai que tout 4 de John Lake. Quelque chose à dire
sur le show en particulier
Sur le salon.
Bah, personnellement, je m'attendais encore à un truc un peu plus impressionnant puisqu'on m'avait targué de ouais, ça va être génial, ça va être plus gros, ça va être mieux que le 3. Bon, c'est pas encore le 3, on espère que ça va le devenir, mais j'aimerais bien encore que la mayonnaise prenne plus.
Qui a dit ça? Moi, je veux savoir qui lui a dit ça.
On l'a trop brigué, donc je suis un petit peu déçu.
Là c'est presque un professionnel qui parle, hein. Il est habitué à venir à la Game Show, tout ça.
Je veux bien le croire.
J'ai tout 4 de jeuxonline.info. Hein.
D'accord, moi je voulais savoir qui lui a dit que ça allait être...
Il faut bien commencer par quelque chose. Bon, c'est déjà bien, on peut venir jouer aux jeux vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas dans les salons qui sont présents en France, et c'est ce qu'on regrette énormément. Là... c'est le cas, on peut jouer, on peut s'essayer, on peut tataner des copains. Il y a encore beaucoup de bruit, c'est assez difficile de faire des interviews, mais on va essayer de faire avec. Mais voilà, ça, on s'éclate, il y a du monde qui vient, on retrouve des visages, il y a des acteurs européens qui se retrouvent à Paris. Voilà, on espère que ça va fonctionner pour avoir vraiment des événements sur lesquels on pourra enfin être ensemble sur Paris, tester des vrais jeux avec des vraies annonces, puisqu'il n'y a pas de très très grosses annonces encore à l'heure actuelle. Les gros studios ont déjà tout balancé. Bon, voilà, on espère. On est qu'au premier jour, on va dire, parce que l'avant-première compte pas vraiment. Et on espère que ça va marcher, mais c'est pas aussi extraordinaire auquel on nous l'a vendu jusqu'à présent.
Shoham.
Justement, alors, si on oublie. Qui t'a vendu ça, en fait?
Oui.
On veut des noms, nous!
Non, mais alors, Shoham.
Certains responsables qui nous avaient dit qu'ils avaient mis beaucoup, beaucoup de budget marketing dans leur stand, et au final, ils se retrouvent avec un petit truc très, très risible.
Alors, Shoham,
les 2-3 interviews qu'on a vu circuler sur la toile, voilà.
On oublie le 3. Alors si on oublie le 3, est-ce que ce Paris Games Week, peut-être pas là tel qu'il est aujourd'hui, mais est-ce que selon lui, il est capable de rivaliser, pourquoi pas, avec la Gamescom?
Si on oublie le 3, parce que la question là, tu compares le 3, mais est-ce que ça peut rivaliser avec la Gamescom en Allemagne?
La Gamescom commence de toute façon à être dépréciée, puisque donc de ce que je faisais avant, il y a 2-3 ans, c'était immense. L'année dernière, c'était déjà plus réduit. Le festival du jeu vidéo était très grand il y a un an. Cette année, il était pratiquement désert. Ça a très mal marché. C'est clair que ça peut se comparer au festival du jeu vidéo en termes de superficie à l'heure actuelle. Si on couple avec le monde du jeu. Par contre, en termes de jouabilité, de bande de jeu, c'est incomparable. C'est clair que là, on peut venir jouer. Après, ça reste le parc des expositions. Il y a toujours, donc c'est facile d'accès, on rencontre les professionnels, il n'y a pas de soucis. Avant, on avait les jeux indépendants, là, on est les jeux professionnels. Donc, les licences qu'on n'a pas d'un côté, on les a là. Donc, c'est un double événement. Et il y a trop d'événements. Personnellement, je trouve qu'il y a trop d'événements. J'ai un événement à Angoulême, un événement à Orléans, un événement à Brest. J'ai la Chibi Japan Expo en même temps. Il y a le Micromania qui va tomber et il y a le Paris Game Week. Je sais plus où donner de la tête. Donc, j'espère qu'il y en a un qui va marcher très bien. Donc, sans doute celui-là, pourquoi pas. Dans lequel tout le monde pourra enfin se rallier sur une même bannière dans laquelle on pourra vraiment faire un putain d'événement, qu'on pourra venir s'éclater, que tous les éditeurs n'auront pas à courir à gauche, à droite, parce que tu me rejoins, Pascal, mais vous pouvez pas être partout en même temps, ça vous fatigue aussi, vous avez pas le temps de, tu t'es là qu'aujourd'hui, tu seras pas là demain, est-ce que tu iras au Micromania Game Show, je ne sais pas. Vous avez trop de choses à faire, il y a trop de choses en même temps, c'est un peu dommage. Et au final, on n'a pas d'effet de grandes annonces, alors qu'on attend beaucoup, ils peuvent pas nous lâcher les infos. On finit par être un tout petit peu frustré, mais je pense que c'est le temps que les choses se mettent en place, que les gens savent qu'il y aura un événement important, que les gens peuvent venir et que même les transports se mettent à faciliter les accès, puisqu'on est en ce moment sur Paris, c'est un peu galère, faut dire ce qui est. c'est pas la bonne période. Bon, voilà. On espère que ça va prendre. C'est un bon départ parce qu'ils ont mis les moyens dedans. On va pas nier qu'ils ont pas mis des grosses sommes d'argent dedans. Voilà. J'espère qu'ils auront une réussite à la fin du week-end où ils pourront nous dire « Ok, ça a marché, les gens sont venus, les gens sont contents. » Voilà.
Alors, c'est une des questions.
On est mercredi, je ne dis pas de bêtises. Ça commence tout juste, on ne va pas apprécier. On arrive avec tous nos a priori. Bon, j'ai pu tester Assassin's Creed, j'en suis content, j'avais beaucoup d'a priori dessus. J'ai pu tester Terra, c'est sympa, c'est de la balle. J'espérais qu'il y aurait plus d'Activision Blizzard, c'est pas le cas, c'est dommage. Bon, voilà, on fait avec ce qu'on a et ça reste très bien pour ce qui en est maintenant. Après, c'est le public qui va en répondre et c'est à eux qui auront le dernier mot.
Alors,
une question, Gus.
Oui, il a soulevé une chose intéressante. Il parlait des effets d'annonce et c'est un peu ce qui fait le 3. Le Paris Games Week, à côté de ça, peut pas rivaliser. Jean-Claude Larue nous l'a dit. Il n'y aura pas d'effet d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce de constructeur. Il n'y aura pas de, c'est presque une fête commerciale d'avant Noël. Faut le voir comme ça.
Ouais, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce. Tu recompares effectivement le 3 par rapport aux effets d'annonce. Il n'y en a pas d'annonce. Il n'y a pas de grand jeu qui va être annoncé. Éventuellement, mais un Gears of War 3 jouable, c'est tout, quoi. Il y aura tout ce qu'il y aura. Mais en fait, il faut vraiment penser ça comme une fête pour les joueurs. Hein.
On vient jouer, on peut jouer à Kinect, on peut enfin tester des jeux auxquels on a surtout des vidéos, des actus, on revoit des trailers. Voilà, on peut venir jouer et c'est plus pensé familial, bon peut-être parce que c'est la mode casual, etc. Mais que ce soit les mémos à gauche ou à droite, les bandes sont faites pour jouer en groupe, on joue à 3, 5, 10. Les sessions Assassin's Creed, c'est 2 sessions en même temps, en parallèle, où on peut jouer jusqu'à 10, tu me corriges si je me trompe. Voilà, on vient pour s'amuser. Bon. J'ai pas encore vu de grandes files d'attente puisque le salon ouvre tout juste ses portes. C'est clair qu'il y aura une réussite s'il y a 6 heures de queue à chaque jeu, mais ça va être moins sympathique. Mais c'est vraiment un événement familial. On vient ici pour s'amuser. On vient, on s'éclate, on peut récupérer 2-3 bricoles. C'est un show. C'est pas vraiment un événement de com presse à temps parler. C'est pas vraiment the grand show comme on a certains pontes qui ont l'habitude de nous faire des grandes présentations sur scène. Il y a une scène centrale, mais c'est très périodique, c'est des choses qu'on connaît, et on est plus axé sur aller dans les stands, dispersez-vous dans les stands, il y a plein de choses à voir, à tester, à essayer, et notamment plein de petits jeux de gros éditeurs qu'on connaît pas forcément, parce qu'on s'intéresse qu'à la grosse licence, et que du coup on peut découvrir.
Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur Kinect, juste parce que, bon, le Move est déjà sorti, Kinect ça arrive, donc c'est un petit peu ce que les gens vont peut-être aller voir en premier. Est-ce que Kinect est très très visible? Est-ce que la mise en place du périphérique, enfin, Microsoft a mis le paquet pour que les gens puissent y jouer, le tester. Est-ce que tu l'as vu, ça, Schwam?
Oui, en fait, je l'ai vu. Effectivement, tu as des petites bornes. En fait, t'as un grand stand en rond où est installé, en fait, des bornes de Kinect où tu peux jouer, en fait, aux jeux qui vont être présentés. Alors, il n'y a pas, en fait, une borne avec un jeu avec 3 bornes ou 4 bornes. Il y a un jeu par borne. Ça, c'est un peu dommage. Et le problème de Kinect, c'est qu'il faut de la place. Et de la place, il y en a pas beaucoup sur le stand. Donc effectivement, il y a pas non plus, il y a pas 100 bornes quoi.
Ah, techniquement, voilà, c'est pas un appareil très adapté à ce genre de choses.
J'ai l'impression. Enfin, moi, je l'ai testé personnellement, j'étais un peu déçu. En tout cas, sur le stand, j'étais un peu déçu parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait pas. En l'occurrence, c'était Kinect Adventure que j'ai testé. Des fois le truc il saute alors que t'es pas en train de sauter.
Non mais ça c'est parce que t'as pas l'âme d'un aventurier. Ça c'est parce que t'as pas l'âme d'un aventurier, c'est pour ça.
Peut-être j'ai pas l'âme d'un aventurier peut-être. Non sincèrement, techniquement j'ai pas été vraiment bluffé par le produit. J'ai vu même une personne qui jouait sur un jeu de danse, pas sur Ubisoft mais sur le stand de Microsoft, un jeu de danse et le jeu se mettait en pause pendant que tu jouais.
Ah d'accord.
Parce qu'il te détectait pas ou. Alors je pense que c'est plus en fait le fait qu'on soit sur un salon. Il y a du monde derrière, donc la caméra a du mal en fait à te distinguer par rapport aux personnes qui peuvent être derrière ou quoi que ce soit. Je sais pas.
D'accord.
Et pourtant il y a un mur derrière toi alors.
Ok.
Pourtant ça devait pas interrompre le jeu soi-disant, mais des fois il disait reculer alors que t'es presque collé au mur. Alors bon c'est. Enfin je sais pas. Je suis pour l'instant
dubitatif.
Un peu dubitatif effectivement. Je pense que mon collègue de chez Jean Line est d'accord avec moi. Un petit mot peut-être
sur Kinect.
Ça fait 2 ans qu'on nous en parle. Ils ont changé de nom. C'est bon, bref. C'est un peu la tendance. T'as 2 tendances en fait dans Kinect. T'as le fait qu'on fait de la reconnaissance de mouvement qui arrivait avec la Wii. C'était déjà des projets comme l'a dit Pascal tout à l'heure. Certains jeux gèrent mieux la reconnaissance corporelle que d'autres. C'est clair et net. Et dans certaines situations, le Kinect répond très mal. Et des fois, il répond très bien. Mais les jeux sur lesquels il répond très bien, en général, c'est vraiment le jeu casual familial que tout le monde va un peu s'en fiche. Qui va jouer souvent en famille 2 fois, puis ça va prendre un peu la poussière, un peu comme a fait avec la Wii. C'est dommage. Il n'y a pas d'attrait. C'est ok, c'est fun, c'est novateur. Il y a de l'idée, mais ça perce pas plus. Ça reste casu. Ça reste une petite technologie très chère au final. Et on aimerait que ça marche bien, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est un petit gadget. Je trouve que c'est gadget pour le moment. Alors on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est gadget et ça marche pas encore exceptionnellement bien.
Voilà. Donc ça, c'était effectivement la parole d'un... T'as essayé plus de jeux, toi, je crois, sur les Kinect. Bon, pour l'instant, effectivement, ça reste pour le moment assez gadget. Par rapport au Move aussi, est-ce que le Move est quand même plus fiable au niveau appareil ?
Ouais, pour le moment, c'est assez surprenant, il réagit bien. Alors, est-ce que ça va perdurer ? Puisque c'est aussi le jeu en lui-même. Il y a le partie software et le hardware qui détecte les mouvements. Mais il y a une surcouche aussi logicielle, d'après ce qu'on nous a dit, mais on va pas affirmer ça, qui permet plus ou moins de reconnaître correctement et de réagir correctement. Pour l'instant, ça répond bien. Espérons que ça perdure et que c'est une technologie naissante, donc ça va forcément s'améliorer. Du moins, on l'espère.
Une autre question peut-être, Gus ?
Alors, je crois que Calam va lui poser une question.
Ah bah Calam, d'accord.
ouais, par rapport aux technologies, bah, parce que là, du coup, on enchaîne sur les technologies Kinect et Move.
Et en fait, ils sont très présents sur le salon, donc on peut en parler, effectivement. Hein.
D'accord. Est-ce que Ubisoft, là, avait... est-ce qu'ils ont misé dessus aussi ? Parce que là, du coup, Pascal étant avec toi.
Pascal est parti en fait.
Alors, ils ont misé. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Ils ont mis en invisible.
Ok.
En urgence, il y avait une urgence.
Je crois qu'Ubisoft mise sur 2 jeux notamment. Il y a donc on disait tout à l'heure Your Shape, le jeu de fitness, et puis un autre jeu qui est un jeu de sport dont j'ai oublié le nom. Pourtant, je l'ai prononcé tout à l'heure. C'est un jeu de motion sport. Il y a une des épreuves, c'est du football américain. Il y a donc boxe, football américain. Il y a du ski alpin, du foot. En fait, voilà, c'est donc plusieurs jeux, plusieurs simulations de sport spécial Kinect. Voilà. Donc en fait, actuellement,
je l'ai pas vu. En fait, je sais même pas s'il y est d'ailleurs sur le stand.
Alors c'est dommage d'ailleurs. Je sais plus si Michael Jackson The Experience va sortir.
Prononciation, quand même.
Merci. Va sortir aussi compatible Kinect. Je ne sais pas.
Écoute, Michael Jackson, je sais pas. Est-ce qu'il est compatible Kinect ? Oui, bien sûr.
J'ai un doute. Ouais,
ça a été annoncé pour être aussi sur Kinect et sur Wii. Et sur Move. Pour l'instant, j'ai pu voir que la version Wii.
Là, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Kinect, j'ai pas essayé, donc je peux pas dire. Mais il paraît que c'est sympa.
Okay. Michael Jackson va sortir sur toutes les plateformes de mouvement, en fait. Donc, c'est ce qui est prévu, hein, en tout cas.
Très bien. Mais voilà. Je sais pas si on a encore des choses à dire là pour le moment.
Kinect. Oui. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un de Microsoft. Alors, je sais que tu vas être peut-être un petit peu déçu, mais concernant Kinect et la compatibilité avec Fable 3 et Gears of War 3, il y en a pas pour l'instant.
Ah mais voilà. Ça me surprend, tiens.
Ouais, moi je dirais tant mieux. Enfin,
non, parce que effectivement au départ, c'est ce qu'avait pensé Peter Molyneux, et au fur et à mesure du développement, ils se sont aperçus que la compatibilité Kinect, elle était juste gadget, donc elle servait à rien pour le jeu en lui-même.
J'aimerais bien que tu poses une question au journaliste qui est à côté de toi, dont j'ai oublié le nom, de jeuxonline.fr. Oui. Est-ce qu'il peut justement nous dire un petit peu comment il a lui vécu Natal, anciennement, il l'a survolé tout à l'heure, hein, mais Natal puis Kinect avec on se souvient de Peter Molyneux qui était un petit peu le porte-parole du projet, qui aujourd'hui finalement propose des jeux qui ne seront pas compatibles avec Kinect, c'est ce que tu viens de me dire. Comment est-ce que lui il voit tout ça de son œil d'expert?
Alors c'est une question pour toi, Jeux 4. De ton œil d'expert, de Natal à Kinect, et de tout ce que la publicité qu'en a fait Microsoft, ce qui a été annoncé, ce qui n'est finalement pas prévu.
Et le fait que Peter Molyneux était un petit peu le porte-parole et que finalement les jeux qui sortent aujourd'hui, Fable 3 et je sais plus quel autre titre, ou même Gear of War qui est pas forcément un jeu Lionel, oui, mais oui. Ces jeux-là finalement seront pas compatibles, les jeux gamers seront pas compatibles finalement avec Kinect.
Et surtout le fait que Peter Molyneux était un peu le porte-parole et même le créateur plus ou moins de Natal. De Natal, et le fait finalement qu'il ne sorte pas dans Fable 3 alors que c'est quand même un jeu Peter Molyneux, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton œil d'expert?
Je dirais, comme je disais à mon collègue à côté, pour moi ils ont trouvé une bonne idée avec Kinect, ils n'ont pas encore trouvé l'idée du bon jeu qui allait aller avec. C'est ça, ils ont la bonne idée, ils n'ont pas le bon game concept. Les développeurs sont peut-être pas encore compétents dans le domaine puisque c'est tout nouveau, donc faut se former aussi. Pascal parlait de la danse tout à l'heure. Je pense que ça peut être effectivement un très bon filon sur Kinect et que ça va excellemment mieux marcher que sur Wii où t'as qu'une seule. Enfin, on détecte ton bras mais pas le reste de ton corps, donc on sait pas si tu danses bien ou pas. Correct. Voilà. À moins de danser avec une Wii Board, mais à mon avis, ça doit être apocalyptique. Non. L'idée d'intégrer vraiment le mouvement, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que les joueurs attendent ça. À présent, j'en ai vu beaucoup s'essouffler sur le jeu de combat. C'est vrai que tu fais 15 minutes, après t'es crevé, ou tu fais une crampe, tu te fais, ok, c'est pas des vrais sportifs encore, les joueurs. Mais, l'idée est bien, c'est dommage que son concepteur, qui est bon, un papa de bons projets, qui ont persisté, n'a pas réussi à marier les deux genres. J'espère pour lui qu'il aura l'idée du jeu sur lequel il veut vraiment mettre sur Kinect, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça, il manque le jeu adapté pour. Alors, si c'est la danse, c'est un peu dommage pour moi, parce que c'est pas franchement mon rayon. Voilà, c'est pas franchement non plus très gamer, effectivement, comme tu le dis, mais c'est vrai qu'il manque. Il y a un potentiel, il y a plus qu'à trouver la bonne idée pour l'exploiter.
Je sais pas si c'est le moment de faire le débat, mais c'est vrai qu'on espérait tous un point and click ou pourquoi pas un RPG jouable avec Kinect, ou même si on n'a pas besoin forcément d'utiliser le mouvement, mais en tout cas d'avoir des interactions possibles avec ce qui se passe à l'écran.
Un petit peu en fait ce qui avait été fait en démonstration avec Milo, ça serait bien un jeu comme ça d'aventure ou un point and click de cette manière là, quoi. Effectivement, ça serait plutôt intéressant.
Et c'est vrai qu'ils ont pas un gros jeu de lancement, je trouve. Ils ont plusieurs jeux Wii-like, oui. Mais il y a pas un jeu fer de lance du produit.
Un petit peu. D'ailleurs, ce qu'avait été la Wii quand elle a commencé, il y avait pas de vrai jeu, grand jeu, à part le jeu d'Ubisoft qui était Red Steel.
Il y avait les lapins crétins, je crois.
Malheureusement, pas très bien marché parce qu'il a été fait un peu trop rapidement, comme dit mon collègue.
Je peux vous dire que de mémoire, et si je dis pas de bêtises, le système de combat en duel a été développé par quelques équipes de stagiaires. Je sais qu'il y a certains mouvements de ce truc-là qui étaient... Je connaissais le stagiaire en question. Mais regarde, je m'occupe de ça sur machin. Je fais ouais, c'est dommage, mais on n'a pas le temps de le faire, pas le temps de tester. Ils ont pu sortir une line-up, oui, très rapidement, au détriment de la qualité, parce qu'ils ont été forcés de faire ça à une vitesse phénoménale. Ils se sont rattrapés énormément sur Red Steel 2, qui par contre est d'une meilleure qualité. Voilà. Mais... ça reste un peu, lui, ils font beaucoup de choses, ils diversifient énormément, ils ont beaucoup de stagiaires, beaucoup de sous-studios, et parfois, le mix de l'ensemble prend mal. Mais ça n'empêche pas de réussir de sortir des jeux qui sont quand même stables, puisque ça plante pas. Mais bon. C'est pareil, tu me dis, le concept de Wii maintenant est avéré depuis un bon moment. Tu peux me dire un vrai jeu sur Wii qui exploite vraiment le fait de la Wiimote? Est-ce que tu connais un jeu qui t'a marqué? Franchement.
Là, il me pose une colle, mais je pense que le prochain Zelda le fera. Certainement.
Peut-être, j'espère beaucoup.
Moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas, le prochain Zelda va vraiment exploiter tout ce que peut offrir la Wii en termes de reconnaissance de mouvement, effectivement. Effectivement. Gus, t'avais peut-être une...
Non, pour moi, c'est bon, je pense. Oui, on va conclure, tout simplement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On aurait aimé être avec vous, là, dans les allées du salon, passer notre journée à enregistrer des choses. Mais c'est pas possible.
On va pouvoir revenir sur tous ces éléments vendredi avec toi, Schwann.
Voilà. Et puis, tout au long de la semaine et les semaines à venir, avec les nombreux reportages et interviews que tu vas faire, là, toute la journée jusqu'à ce soir. En tout cas, voilà. Donc, le Paris Games Week sur Game Radio, vous allez en bouffer. Je pense.
Ah, c'est bien, on vient juste de terminer avec les interviews de la Gamescom. Hop, on va enchaîner sur celle du Paris Games Week.
On enchaîne, très bien.
Il y a des tiers du jeu vidéo aussi en même temps, qui va arriver derrière aussi.
Voilà, ah, oui, c'est vrai, je crois qu'il nous reste encore du stock. Schwab, on n'a pas encore tout mis en ligne. Très bien, bah, écoute, Schwab, merci beaucoup. On va te laisser maintenant profiter de ce salon et puis surtout aller à la rencontre des éditeurs, des développeurs et du public pour pouvoir faire un maximum d'interviews pour Game Radio. Merci beaucoup en tout cas d'être sur place aujourd'hui. Les invités que tu avais autour de toi là pour cette petite émission extraordinaire consacrée au Paris Games Week. On vous conseille tous de vous y rendre de toute façon. J'ai pas conscience des prix du tout de l'entrée.
Je crois que c'est 9€ le prix, hein, l'entrée.
Voilà, en sachant qu'une fois qu'on est dedans, tout est gratuit. C'est une espèce de grande salle d'arc.
C'est 15€ ce matin. Ah, c'est peut-être 15€ alors.
10€ les normales, et 7€ les réduits pour, je crois, les étudiants et les moins de 26 ans, il me semble.
Et les demandeurs d'emploi et tous les chômeurs. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. J'avais les tarifs sous les yeux. Très bien. Bah, écoutez, on vous conseille d'y aller. C'est une grande salle d'arcade. Une fois qu'on a payé son entrée, on peut jouer à tout gratuitement et profiter de la fête et de toutes les animations. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. On se retrouve vendredi pour faire un nouveau point sur ce Paris Games Week. À bientôt, ciao.
À très bientôt, ciao.
Radio.